Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
. 16h55 dans l'ascenseur qui mène au studio.
Allez, sixième étage, hop, c'est parti pour l'émission.
Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait pas ça d'habitude?
Oh mon Dieu, on est coincé!
Ah ouais, donc toi tu fais partie de ces gens qui croient qu'en tapant sur tous les boutons de l'ascenseur, il va repartir, quoi.
C'est les mêmes qui klaxonnent dans les embouteillages. Ne paniquons pas les amis, ne paniquons pas!
Ok, on panique pas, mais quand même, on est à 5 minutes de l'antenne là.
16h56, toujours dans l'ascenseur.
Bon, l'avantage de notre métier, c'est que si à 17h on n'est pas à l'antenne, quelqu'un va forcément s'en rendre compte.
Bah, sans votre idée d'aller à 3 chercher un Kinder Pingoui 5 minutes avant l'antenne, on n'en serait pas là, hein, je suis désolé. Hein.
Du calme les enfants, du calme!
Ah non, mais moi je suis super calme, hein, mais bon, on est à 3 minutes de l'antenne là.
16h57, l'équipe est désespérément coincée.
Bon, les enfants, j'ai le regret de vous dire qu'on est désespérément coincés.
Ah non, en plus je dois faire pipi! On peut même pas mettre Charline en PLS, y a pas la place!
De toute façon, moi ça va, de toute façon j'ai prévu mon Kinder Pingoui, on n'a plus qu'à attendre que ça redémarre.
Mais puis, enfin voilà. Guillaume, et l'émission, le sens du direct!
Ah non, mais moi c'est pas grave, hein, je peux faire ma chronique par téléphone, le réalisateur il a tous mes sons.
Ça y est, on bouge,
ah,
ça y est.
Ah, mais attends, est-ce qu'on bouge dans le bon sens?
Ouais, ça monte! Vous croyez qu'on a su rester digne?
Oh, on s'en fout, personne nous a entendu de toute façon.
Ah ça y est, on y est! Ça y est! Poussez-vous! Priorité en tête! Libérez les toilettes!
Tu vois, Juliette, pour la dignité, toujours prendre exemple sur Charline.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans la start-up radiophonique dont voici la devise du jour. Chacun son laptop et les fichiers seront bien gardés. Et voici les trois sujets dont le premier a été confié à Juliette.
Si on pensait que le cinéma français sortirait intact de MeToo, l'interview fleuve d'Adèle Haenel à Mediapart, après cette interview, on va devoir réviser sa copie. C'est que la comédienne, au-delà de son cas particulier, dénonce un système complet et refuse de se pourvoir en justice. C'est que parfois, quand on pense juge, bon ben, c'est à ça qu'on pense.
Je me sens d'humeur à rendre la justice. Apportez-moi de la trempette.
Le gouvernement nous encourage à acheter des actions, la Française des Jeux. Entrez dans l'histoire, nous dit la réclame jusque sur cette antenne. Alors pour les autres, ceux qui vont passer à côté de l'histoire, bah je sais pas, continuez à gratter.
Hein, oh putain, j'ai les trois télés.
Non, c'est pas vrai.
Si.
C'est pas possible.
C'est incroyable ça. Viens voir la réclame. Une, deux, trois.
Il a les trois télés.
Il a les trois télés.
Et ils sont les numéros 2 dans l'entreprise, dans la politique. Le numéro 2 est parfois un mystère. Est-ce plus confortable de se poster en deuxième ligne en laissant le numéro 1 devant? Bref, le numéro 2 n'est-il pas le plus malin? En restant discret, bien sûr.
Mais je suis quand même numéro 2 de chez Binet, bordel! Mais tout le monde l'oublie dans cette maison ou quoi? Je suis numéro 2!
Et nous devons le casting des premiers rôles de chronique à Juliette Arnaud.
Oui, je vous ai convoqué une belle équipe de hippies. Avec d'abord notre pique-nique personnel, comment ne pas céder au soyeux de son poil, au miel de ses opinions et à ses petites dents à serrer plantées dans ta jugulaire.
C'est pas mal.
Pablo Mira.
Salut Juju. Bonjour Charline, chroniqueur gauchias. Alors on s'en doutait, mais c'est maintenant confirmé scientifiquement par une étude américaine. 1. Les hommes sont plus drôles que les femmes. 2. Ce soir, je dors sur le canapé. À tout à l'heure.
Ensuite, ses pulls en chanvre, son micro en bambou et son aptitude à tirer le pire du moindre chaland, il est le Summer of Love fait homme.
Oh, c'est beau.
C'est Humeurs.
Oui, c'est moi. Bonjour à tous. Je vais vous parler de quotas d'immigration aujourd'hui puisque Macron veut les mettre en place. Et ça tombe bien, les Français ont un avis sur les immigrés.
Si on en prend, ça n'est que plus par rapport au fait que on devrait pas les accepter.
C'est pas simple, je vais tout de suite, accrochez-vous.
Enfin, elle aurait pu choisir John Lennon comme mentor et chef de file. Elle a choisi Aliénor d'Aquitaine, sa devise, faites l'amour, d'accord, mais surtout faites la guerre. Clara Dupont-Bonnand.
Bonsoir Juliette.
Bonsoir.
On va vous parler du prix Goncourt, qui est tombé quand même hier.
Ah, c'est pas fait mal.
Avant-hier. Oh, spécial van.
C'est bien, c'est Goncourt, c'est original, on en a pas beaucoup parlé.
C'est mercredi et j'avais pas de chute. Allez, voici celle qui va occuper notre open space.
Pardon.
Hashtag Occupy espace ouvert. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Cécile Revoa.
La classe. France Inter. Ah ouais. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Cécile Revoa.
Merci beaucoup.
On va pas faire des jeux de mots toute l'heure, je rassure tout le monde, les auditeurs. Hein. Oui, non,
bon, voilà.
Avec bien bon courage, hein, parce qu'il y a pas grand chose à faire.
Cécile Revoa,
Alors, vous avez notamment joué dans une série qu'on adore dans cette émission, au point qu'on en entend des extraits quasiment tous les jours, qui est Fais pas ci, fais pas ça. Vous jouez la collègue de travail d'Isabelle Gélinas. On vous a aussi connu pendant de nombreuses années dans Avocats et Associés. Vous avez tourné aussi pour le cinéma, beaucoup pour la télévision. Et vous nous proposez lundi soir sur TF1 un téléfilm en deux parties qui s'intitule Itinéraire d'une maman braqueuse et qui est tiré d'un livre intitulé Un début de mois difficile de Rosane Vicari. Vous jouez le premier rôle, vous êtes l'héroïne de ce téléfilm, vous êtes Laura, qu'on découvre dès la première image, en suite à capuche sur la tête, en train de braquer un flingue sur la tenancière d'un bureau de tabac. L'image juste après, on est quelques mois plus tôt. Laura est joyeuse, dans une robe à fleurs, elle chante dans sa bagnole à tue-tête du Niagara. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ?
Qu'est-ce qui se passe ? Une grande chute.
Réponse sur TF1.
Une grande chute, ouais.
L'élément
animer
modificateur
la télé
de l'histoire.
Lundi, 11 novembre à 21h. Non, ce qui se passe, c'est la descente qui se fait petit à petit, l'endettement. Elle n'est pas encore surendettée, en fait, elle est endettée. Mm-hmm. Ce qui est suffisant déjà. Et elle en arrive à faire un geste fou de braquer le bar tabac en bas de chez elle à l'ouverture. Donc c'est dire que c'est un geste fou puisqu'il n'y a rien, presque rien dans la caisse.
On ne le conseille pas.
C'est vraiment une histoire vraie.
Inspirée de faits réels. Hein.
Tout à fait. C'est ce que Rosane Vicari a fait. Et par désarroi, par coup de folie, quoi. Appel au secours.
C'est-à-dire l'élément modificateur de l'histoire, quand on trouve Laura en train de chanter du Niagara dans sa robe à fleurs dans la bagnole et que la vie est belle, elle arrive chez elle et elle voit son mari en train de la tromper. Ils vont se séparer et c'est le début d'un engrenage qui ça raconte l'engrenage de l'endettement puis du surendettement, mais de la femme en fait.
Tout à fait, parce que déjà, bon, elle se retrouve avec deux enfants à charge, séparée d'un premier mari qui s'est pas occupé du premier enfant, et du deuxième qui est complètement adolescent, qui est joué par Pascal de Melon.
Bon.
Et
de Melon.
De Melon.
Pont. Je crois que c'est un P. Pont.
De Melon.
Ne vous inquiétez pas.
De Melon.
On a reçu Jean-Luc Bidou la semaine dernière. Il connaissait le nom de personne.
J'ai vu l'émission. Bon, mais je suis un peu comme lui. J'ai pas le même âge. Et pourtant, quoique. Et je suis pareil en figuration souvent.
Donc, Pascal de Melon joue votre mari.
Alors, Pascal de Melon.
Non, mais.
J'arrive pas à le dire.
Après, on a qu'une heure, hein, attention, hein, devant nous. Je rappelle
après,
quand même que.
Après, il se l'est peut-être chopé.
Le Pascal, j'arrive. Mais non, pas du tout.
La Francis Huster qui joue votre cousin.
Bon, alors, on va dire Yvan Attal. Allez, ça va aller plus vite, plus facile à prononcer. Allez-y.
Mais dites-vous, j'arrive à le dire. Donc, voilà, Pascal, donc, j'arrive, il me trompe, c'est atroce, je pars et je me retrouve avec deux enfants sous le bras et un SMIC.
Mais pourquoi elle se sépare aussi ?
Mais voilà. Ouais. Pourquoi elle n'est pas restée ?
Il faut réfléchir.
Quand on a un SMIC, on l'a entendu récemment.
Mais
quand on a un SMIC,
voilà.
On ne divorce pas.
On prévoit
pas.
Les arrières.
C'est la base.
Mais
voilà.
Mais elle aurait dû subir, rester et...
Faire des études.
Voilà, faire des études.
C'est pratiquement ce que lui dit d'ailleurs sa mère, qui est jouée par Catherine Allégret. Et il y a un dialogue au début du téléfilm qui est assez dur. Significatif. Ouais. Où elle lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Et Laura, donc vous lui répondez, comme toutes les femmes dans mon cas, je vais me débrouiller. Ouais. Et c'est là où le téléfilm arrête d'être juste une histoire individuelle. C'est d'une certaine manière toutes les femmes, en tout cas toutes les femmes qui se retrouvent à devoir gagner leur vie, élever souvent seules deux enfants, parce que on va pas se voiler la face. Enfin, il y a plein de maris qui payent pas
les
pensions.
Une femme sur 5, ouais, voilà, c'est ça. Une femme sur 5, comme beaucoup de. Une femme sur 5.
Et à peine mieux d'un SMIC, c'est impossible
de s'en sortir toute seule. Impossible.
Vous aviez la sensation que vous jouiez d'une certaine manière qu'en jouant Laura, c'était pas que Laura, c'était pas que une histoire, c'était un moment de société.
Tout à fait. Quoi, en tout cas, c'était beaucoup de femmes. J'avais conscience que ça parle à beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. C'est sûr.
Oui, le téléfilm dit un petit peu, si vous êtes dans une situation un peu fragile, ça peut vous arriver. Donc, ça peut être.
Ah, bien sûr.
Ça arrive très vite.
Ça arrive très vite. C'est pour ça que je trouvais important qu'elle ait de l'humour, que tout est. Quoi, je veux dire, c'est une femme qui a de l'humour, qui est ordinaire, qui a une vie plus ou moins normale, la Laura, de départ. Et petit à petit, elle sombre, mais comme plein de gens peuvent sombrer, et que la précarité, effectivement, peut arriver à n'importe qui. N'importe quand.
C'est un téléfilm qui est diffusé sur TF1. Pendant longtemps, longtemps, c'est une chaîne de télévision qui avait pour mission de faire rêver la ménagère, d'envoyer du rêve. Là, aujourd'hui, c'est une chaîne qui aussi parle du quotidien des gens qui regardent TF1. Qu'est-ce qui a changé? Parce que ça a changé au point que même dans ce téléfilm, il y a une chanson de La Chanson du Dimanche, qu'on aime beaucoup ici, la chanson Le Pouvoir d'Achat, où elle s'éclate dessus parce qu'elle vient de trouver un petit logement avec ses deux enfants. Et La Chanson du Dimanche, c'est...
C'est Alexandre Castagnetti, entre autres.
Le réalisateur
qui est le réalisateur du téléfilm.
Et qui était dans le duo de La Chanson du Dimanche.
Exactement.
Mais alors, donc, cette question, donc, TF1 faisait rêver la ménagère. Aujourd'hui, elle parle de sa vie. Et dans ce téléfilm, on affiche à l'écran, elle fait ses calculs et les chiffres s'affichent, quoi. Avec le tel crédit, les courses du mois, le crédit pour la bagnole.
Mais c'est surtout.
Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
Mais, entre les deux chez TF1, vous voulez dire?
Ouais.
Malheureusement, elle a une proposition de contrat, donc.
Ils
ont fait vraiment des progrès. Hein.
Ça veut
ils
dire
sont
qu'il y a,
super,
y a des choses
super.
Qui ont évolué dans notre société ou dans les médias pour qu'on finisse par. On évoquait tout à l'heure le téléfilm avec Philippe Rebaud et Jean-Luc Bidault.
Un temps de chien.
Un temps de chien qui a aussi été primé à La Rochelle, parce que je rappelle que vous avez reçu le prix d'interprétation féminine au dernier festival de La Rochelle. C'est deux téléfilms qui parlent de ça.
Qui traitent les mêmes sujets.
Et qu'on n'aurait pas, pas forcément vu à la télévision
non,
sur des grandes chaînes.
En deux épisodes, comme ça, on est sûr qu'on ne pratique. Non, non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on ne pratique aucun raccourci et qu'on montre exactement, chèque après chèque, comment une femme peut perdre pied sans faire des dépenses excessives, par exemple. Ça n'est pas traité, ça n'est pas passé sous silence.
Mais avec de la pub au milieu quand même pour acheter des trucs très chers, pour que les gens s'endettent.
Eh ben,
de temps,
pas,
de cerveau disponible.
Bref, ce sont deux téléfilms qui ont été montrés à La Rochelle, qui sont diffusés sur des grandes chaînes. Il y a Arte, ben là, ici c'est TF1, Arte on comprend plus de logique. Mais
Ce qui est bien, c'est qu'ils traitent un sujet tellement actuel, et c'est super qu'une chaîne privée comme ça s'en empare. On parle aussi, en tout cas, quoi dire.
C'est déjà on va faire un mime.
On va t'en regarder.
Trouvez-moi une chute.
Bon, c'est la spécialité ici, faites-moi confiance.
C'est pour ça que je ne sais pas trop qui elle s'appelle. Voilà, c'est ça, un calembour, quelque chose.
J'en avais un de Cavaillon, de Melon de Cavaillon, mais c'était pas dingue.
Itinéraire d'une maman braqueuse d'Alexandre Castagnetti. Ce sera donc lundi soir sur TF1 à 21h05. Avec vous, Cécile Reboa, avec également Claire Nadeau. On s'en rappelle très très bien, Claire Nadeau. Coco Nadeau.
Je crois que c'est pas d'eau.
Doun, Catherine Allégret, qu'on a vu tellement de fois dans son bar, c'était chez Navarro, me semble-t-il.
Ouais,
Pascal Demolon, Jules Houplin et Simon Aouizerat. Je vous donne
non,
tous les noms.
Non, c'est pas tout à fait ça, bien sûr.
Ce sera diffusé donc, lors d'une soirée événement qui sera présentée par Harry Roselmack, dédiée au surendettement. Le téléfilm sera suivi d'un débat sur le surendettement qui s'intitule « Le combat des femmes ». Et oui, voyez, alors le monde change, TF1 aussi. On l'appelait la boîte à cons avant, maintenant ça l'est moins. Hein.
Carrément.
Allez, vous êtes sur France Inter, une autre boîte à cons. Hein, c'est...
Ouais. La concurrence.
On entend. Pas nous, c'est nous, on s'en fout de tout ça. Si vous priez pour nos pauvres pécheurs, de toi, le naufrageur, le vaisseau spatial, c'est nous. Les oeuvres du pondeur, l'alma, la belle alma, Anouche cavale sur la steppe en flamme. C'est nous, nous chante Arthur H sur France Inter à 17h23. Cécile Reboa est avec nous, prix d'interprétation féminine au dernier festival de fiction de La Rochelle pour un téléfilm qui sera diffusé lundi soir sur TF1, Itinéraire d'une maman braqueuse d'Alexandre Castagnetti, inspiré de faits réels et tiré d'un roman. Juliette Arnault, c'est bien vous ?
Oui, c'est Arnault, alors moi c'est sûr, c'est Juliette Arnault, ni Rebaud, ni Rabiot.
Vous pouvez correctement prononcer les noms de
Pablo,
chacun autour.
Mira, Guillaume, Meurice et Clara Dupont-Monod.
Et l'information.
Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Le journal de presque 17h17.
C'est lundi ?
Faisons comme si c'était normal après tout.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on évoquera l'univers des chaînes infos.
Il sera donc question de troisième dimension.
On parlera aussi des Levalloisiens qui soutiennent Patrick Balkany.
On parlera donc de troisième âge.
Et enfin, on fera un point sur Patrick Bruel.
On parlera donc de troisième jambe. On n'était pas sûr de celle-là, puis on l'a laissée quand même. Et on commence avec les chaînes infos.
Ouais, hier, la journaliste Zineb El Razoui était sur le plateau de Pascal Pro.
Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là.
Non, mais oui.
Ah ben si, vous avez un guet-apens de 100 barbares qui prend... il faut que la police puisse... La police américaine aurait tiré à balles réelles pour bien
moins que ça. Nous ne sommes pas aux États-Unis.
Bonne ambiance, on pourrait qualifier ça de bonne ambiance, ça fait plaisir. Alors là où on voit que ça a été vraiment assez loin, c'est que même Pascal Pro n'était pas bien du tout.
Je suis garant de ce qui se dit sur ce plateau. Il ne sera pas dit sur ce plateau ou sur l'antenne de CNews qu'on doit tirer à balles réelles sur les manifestants.
Voilà. Oh là 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 là, ça y est, on peut plus rien dire, quoi. Franchement, Francis Holm, il sera en prison aujourd'hui avec des raisonnements comme ça.
Il est en prison.
Ah ouais ? Ah bah putain, on vit dans une dictature, merde, c'est un scandale, enchaîne.
Politique à présent, dans son nouveau livre, François Ruffin, le député insoumis, plaide pour une écologie qui rapproche rouge et vert.
Et ça, François de Rugy y avait déjà pensé en servant les homards sur son lit de cresson.
Effectivement. Municipal à Paris, plus que quelques heures avant la très probable désignation de Rachida Dati comme candidate de la droite.
Oh là là là, le suspense est insoutenable.
En effet, on a hâte de savoir qui va perdre en mars prochain.
Oh là là, escroc toujours.
Patrick Balkany a besoin de 500 000 euros pour sortir de prison et hier, Isabelle Balkany a réagi.
Il se trouve que des habitants de Levallois, spontanément, connaissant notre situation, avait lancé des cagnottes litchi dans tous les sens.
Ah, c'est beau, hein, ça me touche énormément. Une belle solidarité, ça c'est les vraies villes de gauche, voyez. Hein, ami, si tu tombes, un virement bancaire sort de l'ombre à ta place.
Mais Isabelle Balkany met en garde.
Oui. Et je leur ai demandé d'arrêter, car j'ai eu peur que qu'on ne puisse pas où aller les fonds, qu'ils se fassent gruger par des gens qu'on ne connaît pas.
Et oui, les Levalloisiens doivent se faire gruger, mais uniquement par des gens qui connaissent. C'est ça qui est important.
Trois jours après la tempête Amélie, les gestes de solidarité se multiplient et certains habitants mettent à disposition des sinistrés leur salle de bain.
Et toujours personne pour mettre sa salle de bain à disposition de Michel Houellebecq.
À Paris, une boîte de nuit a ouvert ses portes au théâtre du Châtelet.
Christophe Castaner aurait demandé le ministère de la Culture.
Tandis qu'à Bordeaux, les voisins obtiennent l'expulsion des grenouilles et le comblement de leur mare parce qu'elles croassent trop fort.
Non mais ça va, pas gêné, là, les amphibiens. Putain, mais rentrez chez vous les grenouilles ou je vous dégomme à la carabine. Là,
oh ça va pas, Guillaume.
Excusez-moi,
quoi.
Je me suis cru sur ces news.
Ah, il me semble, oui.
Pardon,
alors international, en Belgique, le roi a chargé le socialiste Paul Magnette d'une mission d'information pour constituer une coalition après 164 jours sans gouvernement.
Ok, bah non, mais c'est mort.
Ah bah non, pourquoi ?
Ah bah quand ta seule solution c'est un socialiste, c'est mort quand même. Hein, vous voyez Olivier Faure redresser la France, vous, comment...
Olivier qui ?
Voilà, c'est mort. Allez, on enchaîne.
Okay, ouais, c'est vrai. Alors, international, toujours aux États-Unis, une femme risque 93 jours de prison pour avoir oublié de rendre 2 livres à la bibliothèque.
Non, mais 93 jours, mais c'est un scandale. Mais faut tirer dessus à balles réelles, putain. Défoncez-la ou quoi?
Mais non, mais calmez-vous, c'est bon.
Mais non, c'est aux États-Unis, c'est bon.
Ah, oui, donc c'est bon, c'est bon. Allez, c'est vous avez raison. Allez, on continue.
Allez, on termine avec une brève.
D'accord. Un homme totalement déséquilibré a été placé en garde à vue mardi après avoir été interpellé nu dans un TGV reliant Stuttgart à Paris.
Ça fait toujours plaisir de prendre des nouvelles de Patrick Bruel.
17h27 sur France Inter, Cécile Rébaud est en notre compagnie et on va aborder ce premier sujet choisi par Juliette.
Adèle Haenel le précise dans son récit à Mediapart, elle place son histoire privée dans une histoire publique qui nous concerne toutes et tous. Il s'agit moins de dénoncer les actes d'un homme sur une toute jeune fille que de dénoncer un système d'impunité, moins une vengeance qu'un désir puissant de regarder les choses en face et d'écouter les témoins. Enfin, ceux qui veulent bien témoigner, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des témoins? Moi, je suis témoin. Qu'est-ce que vous avez vu?
Tout. J'ai tout vu.
Alors, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant?
Mais rien, je ne dis plus rien. Excusez-moi, tout le monde peut faire une erreur.
C'était Les Enfants du Paradis, de Marcel Carnet. Je crois que c'est Paul Francoeur, l'acteur qu'on entendait.
Si c'est pas ça, vous nous écrivez sur Twitter. Voilà. On ne regarde pas Twitter, mais vous pouvez écrire.
Je crois que c'est Pascal de Melon qui a fait cette version-là. Enfin,
de Melon. Vérifier.
De Melon, oui.
Cécile, depuis ce témoignage d'Adèle Haenel, on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup d'actrices, dont Marion Cotillard, saluer son courage et dire qu'elles éprouvaient un grand sentiment de gratitude. Vous êtes une actrice, on vous a à la radio, on n'est pas sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça vous a inspiré?
Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Bah, c'est moi ce qui me. J'ai regardé évidemment Adèle Haenel sur Mediapart et je trouve ça admirable qu'elle l'ait fait. Ce qui m'attriste, c'est qu'elle n'ait pas pu le dire à l'époque, c'est qu'elle ait été dans le silence pendant 15 ans. C'est ça qui est douloureux à entendre. Et maintenant, si elle a réussi à le faire et que ça ouvre des portes à plein de femmes, c'est merveilleux, quoi. Mais
bah d'autant que elle-même dit que ce qui lui a inspiré
c'est le documentaire.
Donc
c'est que comme... j'ai vu d'ailleurs. Voilà. C'est vrai qu'il est impressionnant, quoi. De voir ces hommes pouvoir enfin libérer la parole des années après, de se rendre compte de la gravité de l'acte, alors qu'ils pensaient que Michael Jackson était amoureux et que c'était un sentiment normal
donc,
à l'époque.
Donc en fait, c'est ça, c'est vraiment un phénomène de domino qui se passe et qu'elle espère bien. En fait, c'est exact, c'est bien pour ça qu'elle parle du documentaire de Michael Jackson, parce qu'elle pense que voilà, ça a eu l'effet sur elle, donc potentiellement son témoignage aura de l'effet sur d'autres femmes. On avait la sensation que MeToo, jusqu'à présent, c'était pour Hollywood. Et là, on est en train, peut-être, de commencer à se dire que le cinéma français n'est absolument pas exempt de ce genre d'affaires. Vous êtes comédienne depuis 20 ans. Est-ce que vous avez l'impression que depuis MeToo, il y a des choses qui changent sur les tournages? Est-ce que les femmes, les actrices ou les techniciennes se parlent plus? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient plus possibles maintenant?
Ben, je le souhaite de tout mon cœur qu'il y ait des choses plus possibles maintenant. Maintenant, moi, c'est vrai que là, c'est au-delà même du métier d'acteur. C'est là un acte de pédophilie, quoi, envers Adèle Haenel, qui avait 12 ans à l'époque.
Pédocriminalité, on peut dire.
Pédocriminalité. Ouais. Ça parle, je crois, à plein de gens dans plein de milieux différents. Que ce soit des oncles dans la famille proche,
oui, bien sûr.
C'est ce qui est...
La presse américaine s'étonne que en France il n'y ait pas vraiment de le même phénomène que c'est-à-dire que
MeToo.
Il n'y ait pas tant de langues qui se délient que ça, qu'il n'y ait pas beaucoup de réalisateurs. Alors ça doit exister en France, et en France il n'y a pas de là elle a mis un déclencheur qui risque de faire une onde de choc, mais le cinéma français peut pas être exempt de ça non.
Ben non, j'imagine pas. Maintenant, je souhaite qu'effectivement, c'est que les choses sortent s'il y a eu des MeToo en France.
Il y a une deuxième chose. Elle dit qu'elle ne va pas porter plainte. Bon, le parquet de Paris vient de se saisir de l'affaire, mais elle ne portera pas plainte et elle dit que la justice française, pour le moment, n'a pas donné les preuves, selon elle, de savoir traiter les violences sexistes et les féminicides. Votre personnage, dans le téléfilm,
ouais.
Son avocat lui dit à un moment qu'elle aurait très bien pu aller voir un juge pour éviter d'être ouais. virée. Et elle dit, j'y ai même pas pensé et puis j'avais peur.
Elle le savait pas. Elle savait pas qu'on l'aurait aidée. Elle savait pas que c'était possible qu'on l'aide.
En fait, elle se méfie spontanément de la justice, en fait.
Je non, pense c'est par que, ignorance, là, plutôt, non?
Je pense que c'est de l'ignorance, tout à fait. C'est de l'ignorance.
Par mauvaise
personne ne lui a dit, elle ne le savait pas. Elle n'imaginait pas qu'on puisse l'aider. Elle avait tellement honte. D'ailleurs, ce qui est le cas de Rosanne, hein, du personnage
l'auteur
réel.
L'auteur du roman.
Et elle avait tellement honte qu'elle a préféré se taire et subir sans le dire.
17h32 sur France Inter. On va clore ce sujet et passer, bien sûr, à une chronique. Parce que, bien, autour de cette table, Cécile, il y a Pablo Mira, éditorialiste et maître de conférence à la PMU School of Approximation. Pablo, mon petit ange trapu, vous avez découvert qu'apparemment les femmes seraient moins drôles que les hommes.
Ouais, ma louloute. En fait, tout ça vient d'un article qui m'a effaré, selon une obscure étude d'une université en Caroline du Nord. Selon la science, les hommes seraient plus drôles que les femmes. Comment peut-on, en 2019, bientôt 2020, oser dire des choses qu'on sait depuis toujours déjà? Alors, précision, car j'aime la rigoureusité, l'étude a été réalisée sur 5000 cobayes chargés de juger l'humour d'hommes et de femmes qui n'étaient pas des comiques professionnels, sinon voilà, 100% des hommes et des femmes auraient été drôles. Là, elle a été faite sur des gens normaux qui n'ont aucune compétence particulière en humour, comme une avocate ou Anne Roumanoff. Et les conclusions ne laissent place à aucun doute. En termes d'humour, au sein de la grande équipe de la drôlerie, l'homme est un titulaire indiscutable, tandis que la femme est, elle, interdite de stade, punie pour avoir craqué le fumigène de la médiocrité. Bien sûr, je vois venir les féminazis. Alors attention, cette étude ne veut pas dire qu'une femme n'est pas drôle, parce que moi, par exemple, quand je vois Juju revendiquer l'égalité salariale, ben je suis plié de rire, je le dis. En fait, merci encore de travailler gratuitement aujourd'hui. Ah non. Tiens, t'es gentil, ma belle. Tu vas te chercher ce que tu veux à la machine à café, c'est papa qui régale. Non, cette étude veut tout simplement dire que les femmes, en termes de rigolade, elles sont moins fortes. C'est comme ça, humour et femme sont deux mots qui sont aussi incompatibles que SMIC et divorce. Surtout ne prenez pas ombrage de cette défaite, mesdames, car en réalité, cette supériorité masculine, elle est logique. Elle est logique puisque les femmes, étant attirées par l'humour d'un homme, eh bien, nous, on a besoin d'exceller dans ce domaine. Pour vous séduire, vous connaissez le fameux dicton, hein, femme qui rit, femme qui a acheté une place pour Pablo Mira, dit des choses contre de l'argent, tournée dans toute la France jusqu'en mai 2027. Donc de facto, l'humour est une arme redoutable pour coucher avec une femme, et légale surtout. Oui, je tiens à le préciser parce que je sais qu'on est beaucoup écouté dans Lyon. A contrario, les hommes n'aiment pas forcément qu'une femme soit drôle, ils seront plus attirés par les femmes qui rient à leurs blagues. Donc oui, Charline, je vous vois venir, Gérald Darmanin n'a pas de vie sexuelle. En fait, le problème d'une femme drôle, si vous voulez, c'est qu'elle devient un peu la bonne copine. Et est-ce qu'un homme coucherait avec sa bonne copine? La réponse est bien sûr, peut-être. Pourtant, il y en a beaucoup des femmes qui essaient d'être drôles, de plus en plus même, et pour moi ça c'est un mystère, je ne comprends pas, une femme qui fait une blague, moi ça me met, je le dis, mal à l'aise, sur froide, un prof de solfège dans un concert de Guillaume Meurice. Je veux dire, pourquoi vous faites ça mesdames? Est-ce que moi j'essaye de faire des feuilletés au jambon? Non. Petit conseil aux femmes qui veulent séduire un homme, arrêtez l'humour, soyez sinistre. Quelque part, la femme parfaite, c'est Dominique Seux. Puis franchement, entre nous les louloutes, aujourd'hui, être femme et drôle en même temps, ça n'a socialement aucune utilité. Je dirais même que c'est se tirer une balle dans le pied, ça revient à se lancer en politique avec des convictions.
Ça dénonce, avec Pablo, ça dénonce.
Petite production sonore, c'est gênant, tout à fait. Charline, quand vous faites cette tête, vous savez, je sais ce que vous dites, vous n'êtes pas d'accord, ou alors vous avez vos ragnoutes. Alors ok, allez-y, prouvez-moi que j'ai tort, et citez-moi une seule humoriste femme capable de rivaliser avec un homme, allez-y. Je vous écoute pendant que la régie met de la musique très fort pour couvrir vos paroles, allez-y.
Il y a Muriel Robin.
Mais bon, la régie. Je suis fort, la régie.
Blanche Gardin.
Vous voyez, Charline, votre discours est inaudible. Pour conclure, pas besoin de recherche scientifique pour savoir que nous, les mâles, les alphas, on est plus drôle que vous, mesdames, car franchement, rien que le fait de croire qu'on est systématiquement supérieur aux femmes dans tous les domaines, c'est quand même la plus grosse blague de tous les temps. Allez.
Ça dénonce.
Pablo Mira.
Merci Pablo. N'hésitez pas à le réécouter en podcast
sur France Inter. Parce que si vous en avez raté,
il ne faut pas qu'il reste de miettes, parce qu'il est capable de les revendre, les miettes, sinon. Bah, allez. Vous écoutez France Inter.
Bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single. Ain't worried about a ring on my finger. So you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Bitch, I've been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye.
Truth Hurts, un disque de Lizzo glissé dans le manche disque par Pauline Laverdure. À la technique, vous écoutez France Inter par Jupiter. Cécile Reboët en notre compagnie. Elle a reçu le prix d'interprétation au Festival de la Fiction de La Rochelle pour Itinéraire d'une maman braqueuse à voir sur TF1 lundi soir à 21h05. Guillaume Meurice est également dans la place.
Je vais vous parler d'immigration aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ouais, on te voit venir, tu vas nous dire qu'il faut ouvrir les frontières, tu es un peu le Tikkun Jaffa Coli du pauvre. Charline me dit ça tout le temps. Bon, alors non, je ne dis pas ça, je dis comme Emmanuel Macron qu'il faut des quotas selon les pays d'origine, sinon on voit bien que c'est le bordel. Rien que nous, dans cette émission, on a une immigrée belge qui vient voler les réponses dans les questions des vrais Français. C'est quand même scandaleux, quoi. On a même Clara qui vient clairement pas de France, en tout cas pas de France d'aujourd'hui, elle vient de France du Moyen-Âge, hein, la France de Louis XII, dit le baveux pour sa ressemblance avec Laurent Delahousse devant l'Élysée. Bref, ça ne va pas du tout. On cumule trop de handicaps dans cette émission et je vous rappelle qu'il faut qu'on rattrape les grosses têtes quand même. Il y a un défi, d'accord? Donc il faut faire du franchouillard. On veut de la question de monsieur grosse paire de houille. C'est ça que les Français veulent. OK? Ça et des quotas d'immigration. Je le sais, je suis allé voir les Français ce matin. Il y en a même qui sont un tout petit peu complexés par la question.
Bon, non, je suis pas contre, mais je suis pas vraiment pour non plus, quoi.
Vous êtes mi-pour, mi-contre.
Mi-pour, mi-contre, voilà.
Parce que pour vous, il y a les bons et les mauvais migrants.
Ouais, les mauvais sont déjà là, quoi.
Alors, il est pas si complexé que ça. Enfin, il s'est décomplexé hyper rapidement. Alors, c'est vrai qu'il y a des migrants qu'on aime bien. Je vous rappelle, si vous êtes arabe, si vous rachetez le PSG, c'est bon. Si c'est un bar à chicha, c'est non. Un petit moyen mémotechnique pour les migrants qui nous écoutent. Donc, il faut arrêter avec cette vieille immigration. De toute façon, en France, avec les droits de l'homme, on est ringard.
Ça, c'est la vieille notion française d'égalité.
Elle est dépassée, cette notion ?
Oui. Donc de vouloir toujours mettre tout le monde à égalité, je trouve que c'est assez ridicule.
Oui, oui, tout à fait. Le ridicule ne tue pas, hein, je vous rappelle, puisque Julie Graziani est en excellente santé, bilan cardiaque au top, et elle n'est pas au SMIC, donc elle peut divorcer, ça c'est important. D'ailleurs, elle a déjà divorcé de ses neurones. Ah, ils ont fait sécession, ils se sont barrés. De toute façon, en France, on en est où ?
On a atteint les quotas, c'est bon, on a ce qu'il faut. Il en faut pas plus.
En matière de quoi ?
Bah, d'émigrer, je crois que c'est bon, hein. Il y a juste ce qu'il faut, même de trop là.
Mais il y a des boulots qui ne trouvent pas preneurs hein, pour l'instant, non ?
Ouais, il y a peut-être des boulots où il n'y a pas assez d'études non plus, quoi. Donc il va peut-être falloir favoriser un petit peu plus les études et mettre un peu tout le monde au boulot parce que les allocations familiales, à un moment donné, ça paye bien aussi. Hein. Donc il faut arrêter.
Non mais quel rapport ?
C'est comme nos amis roumains, c'est pareil.
Alors attendez, parce que là, attendez, je crois que comme dirait notre petit immigré espagnol, on a un bingo. On a un bingo, c'est ça Pablo ?
On a un champion en tout
on
cas.
A, ça, on a les allocs, ouais. Tout le monde au boulot et on finit sur les roumains.
Ouais.
C'est on, pas est bon
il ah,
on est bon ?
On a le super bingo.
Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même.
Allez,
n'insistez pas, c'est ma tournée, c'est pour moi.
Tous les immigrés qui arrivent en France profite du système français qui est très très bon et que c'est connu à l'étranger. Hein.
Mais vous, est-ce que vous n'êtes pas issu d'immigration ?
Il y a très longtemps, dans les années 60.
Quelle immigration ?
Portugaise. Donc plus qu'intégré, moi, quand même.
Oui, quand t'as assimilé la xénophobie à ce niveau-là, c'est que t'es vraiment, vraiment intégré à la société française. Il te manque juste un strapontin sur CNews ou LCI et on est bon. D'ailleurs, si les chaînes recrutent, j'ai peut-être une nouvelle proposition de chroniqueuse qui est passée par Aubervilliers et qui a vu donc les bidonvilles de migrants et qui a donc un avis sur le travail des immigrés.
Et oui, ben là, ils vont à Aubervilliers, ils vont trouver, hein, parce que. Et encore, s'ils veulent travailler, parce qu'ils font la manche. Des fois, on gagne plus en faisant la manche qu'en travaillant.
Vous pensez ?
Oui.
Mais vous, vous travaillez ?
Oui, je travaille.
Pourquoi vous ne faites pas la manche si c'est mieux payé ?
C'est ce que je me demande.
Eh ben moi aussi. Eh ben figurez-vous que moi aussi, parce que moi je me ferais pas chier avec un patron à sa place. Je ferais mon CAP mendiant et hop, on est bon. C'est en 2 ans, hein, tranquille. Je montrerai ma petite start-up de manche et hop, fais-la-manche.com, on est bon. Allez, revenons à nos bidonvilles d'Aubervilliers. Ils viennent d'où ces gens ?
Mais ils ont dû venir en bateau.
Et alors, vous pensez qu'il faut les accueillir ou pas ces gens-là ?
Non, pas du tout.
Ah bon ?
Ouais.
Si ces gens-là, c'était des petites fillettes blondes aux yeux bleus, est-ce qu'il faudrait les accueillir ?
Blondes aux yeux bleus, ben. Je sais pas, moi je suis pas raciste, mais quand même.
Attention, on est au point je suis pas raciste, mais quand même, bien connu des amateurs de PMU. Et après, je ne suis pas raciste, mais je vous rappelle qu'on ne contrôle absolument plus rien. On bascule complètement dans une autre dimension. Alors j'ai été sympa parce que j'aurais pu ajouter petite blonde aux yeux bleus, mais avec un voile. Bon, je suis contre la torture, je ne l'ai pas fait. Mais revenons à notre dilemme.
Ils sont blanches.
Oui, donc faudrait les accueillir. Hein.
Voilà, exactement.
Ah bah, donc peut-être vous êtes un peu raciste, non ?
Petit peu.
Mais sur un racisme léger.
Léger.
Voilà, un racisme tranquillou, bilou, comme on appelle ça. Voilà, ouais, on a bien trié les migrants. En tout cas, on dit toujours que ce sont les immigrés qui viennent voler. Mais le vol du programme de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen est bel et bien l'œuvre d'un Français, Emmanuel Macron.
Merci Guillaume Meurice. Vous écoutez France Inter, il est 17h44. La comédienne Cécile Rébaud est en notre compagnie. On va aborder cet autre sujet. La Française des Jeux est privatisée, elle entre en bourse. Et le gouvernement nous encourage à acheter des actions. Dans des messages publicitaires, notamment sur notre antenne, des messages qui se terminent par « Jouer comporte des risques ». Et placer son argent en bourse, non, par exemple. C'est un placement sûr, nous répond-on. C'est une entreprise solide. L'opium du peuple entre en bourse, mesdames et messieurs.
L'Ordre national, balancez vos 100 balles, profitez de l'occasion, au rayon du pognon. La tranche du bonheur, c'est pour les amateurs, venez, c'est du gâteau, choisissez votre morceau. Votre gros lot fera comme un bruit de clochette, alors que vos bons amis viendront vous faire courbette. Sitôt que vous...
Allez, fume, c'est du belge, c'est Annie Cordy.
Ah, c'est Annie Cordy,
oui, bien sûr, Loterie Nationale. Avant de réécouter le spot de pub à la fin de cette émission, bien sûr.
Ça,
on en a beaucoup.
Juste après celui pour les SUV, je crois.
Exactement. Entrez dans l'histoire, ils disent. Entrez dans l'histoire. Alors, le président de la République espère un succès populaire parce que la France est un pays réfractaire à la détention d'actions. Donc, il veut développer l'actionnariat populaire, réconcilier capital et travail. Vous êtes actionnaire, Cécile Reboa, ça vous tente ?
Non, absolument pas.
De rien ?
De rien.
Bon. Alors, est-ce qu'il y aurait ceux qui achètent des actions et ceux qui jouent au jeu de la Française des Jeux ?
Ouais.
D'un côté et de l'autre. Vous pensez qu'il y en a qui ça se rencontre ou pas tellement ?
Alors j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si ça se rencontre. Moi, ce que je pense juste au fait de est-ce qu'il y aura toujours le petit bar-tabac en bas de dans les villages où les gens se retrouvent pour jouer ?
Bah, faudra bien écouler les tickets, donc sans doute.
Ouais, c'est ça. Est-ce que ça changera pas le quotidien du joueur ?
Dans le téléfilm, le centre névralgique du quartier populaire où s'installe votre personnage, c'est le bureau de tabac et ses jeux à gratter. Ça fait partie de l'histoire.
Exactement. Tout à fait.
C'est-à-dire que
bon, c'est un point de rendez-vous, l'espoir de devenir riche,
mm-hmm.
Avec ce petit biais.
Tant qu'on a cet espoir-là, qu'est-ce qui se passe ?
Parce que d'ailleurs, on voit votre personnage à un moment, elle demande un jeu à gratter.
Bien sûr.
Et c'est
une joueuse, une petite joueuse, mais une petite joueuse.
Rappelons que c'est un téléfilm sur le surendettement d'une femme qui a 2 enfants. On assiste à sa dégringolade. Et dans cette dégringolade, une des choses à laquelle elle se raccroche, c'est ça, c'est au ticket à gratter.
Mais le scénariste, tu pouvais pas la faire gagner ?
ça aurait été
alors, il pouvait, mais c'est inspiré de faits réels.
Donc, mais c'était plus le livre.
Voilà. Ceci dit,
le vrai joueur qui joue pas par nécessité, il joue pas pour s'enrichir. Le vrai joueur,
ouais, il joue pour perdre.
Ouais, voilà. Ouais. En tout cas pour défier le hasard. Mais le vrai joueur qui est pas dans le besoin matériel, bien sûr, il joue. Le gain, ça lui est égal au fond. Hein.
Mais alors, là, on est encouragé à acheter des actions pour une entreprise qui vend des choses dont on nous dit aussi dans les spots de pub, jouer comporte des risques. Donc en fait, on achète des actions pour un truc où les gens risquent des choses quand même quand ils sont un peu fragiles, non ?
Oui, mais c'est comme
la bourse.
Oui.
Ça s'appelle la bourse. Il y a plein d'autres entreprises.
La bourse
comme ça.
Aussi, hein, les riches aussi prennent des risques.
Non, mais c'est un double risque. C'est le risque que dès qu'on se met à boursicoter, il y a un risque de perdre de l'argent, et c'est misé sur le fait que des gens prennent des risques avec leur santé.
Il n'y aura pas une mise en abîme.
Ça fait beaucoup.
Vous jouez, vous, un petit peu ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non.
Jamais vous avez joué ?
Très peu.
Un petit
tacotac,
de temps en temps.
Gratte, comme dit Claire Nadeau.
Un petit horoscope.
Un petit rapido.
Non, mais un petit horoscope.
Alors, aujourd'hui, le numéro complémentaire de la chronique, Clara Dupont-Moretti.
Et oui, puis il y en a un qui a joué, puis qui a gagné, qui s'appelle Jean-Paul Dubois, puisque le concours est tombé lundi. Alors, dans cette émission, on avait touché du bois.
Oh, c'est brillant.
Et on avait bien fait.
On se demande pourquoi elle est mieux payée que tout le monde, mais c'est quand même justifié.
C'est un talent. C'est un talent. Car donc, le Goncourt a été attribué à tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Et on est très content. Alors, j'en parlais, enfin, Cécile me posait la question avant l'émission. Qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer chez Dubois? Eh ben, c'est pas physique. Encore que, c'est pas non plus. Non, mais c'est pas perso. Vous voyez, qu'est-ce qui me fait vibrer chez lui? C'est pas son physique, ça pourrait, mais il se trouve que c'est pas le cas. C'est pas non plus financier. Je connais pas non plus son compte en banque, mais voilà, restons prudents. Moi, j'aime Dubois parce que c'est l'écrivain des lieux. Parce qu'on croit toujours que c'est Modiano, l'écrivain des lieux, mais pas du tout. En fait, c'est Jean-Paul Dubois. Quand vous lisez ce livre, c'est l'équivalent d'une espèce de giga carte d'embarquement. On passe de la France au Danemark et puis au Canada en quelques heures. Moi, c'est ce que j'appelle un roman long courrier.
Voilà. Bilan carbone dégueulasse, quoi, dans ce
livre. Non, justement, bilan carbone. Oui, vous lisez un livre, donc vous voyez, le bilan carbone, il est économique. Ensuite, c'est l'équivalent d'un Google Map. Parce qu'on passe d'une cellule à un immeuble en passant par un temple, mais on passe aussi d'un grand lac à une ville. Avec un détour par une jolie plage. Et puis, enfin, il contient tous ces lieux, alors cette fois intimes, puisqu'on passe de l'amour fou au deuil, en passant par le couple, des notions qui sont des espaces infinis ou enfermants, selon l'histoire de chacun. Donc, vous voyez, quand je vous dis l'écrivain des lieux, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ce roman démarre sur un lieu clos, qui est une cellule de prison à Montréal. Celui qui y parle y est condamné. Il s'appelle Paul. Et là, on lit le lieu limité qui oblige à faire ses besoins devant son co-détenu. On lit l'immense nostalgie de la liberté, perverse notion dont on savoure le prix uniquement quand on l'a perdu. Un peu comme la virginité, d'ailleurs. Et Paul... quand on y réfléchit, oui, hein, pardon, mais bon. Et Paul...
J'ai pas dû trop réfléchir.
Vaut mieux pas, je pense.
Et Paul se souvient. Il se souvient des lieux encore immenses, comme les plages danoises baignées d'une lumière farineuse que Dubois décrit de façon si magnifique. Il se souvient du ciel dans lequel volait sa femme, parce qu'elle était pilote d'avion. Et il se souvient aussi d'un énorme immeuble qui s'appelle l'Excelsior, dont il était le gardien. Et tout le livre est un long flashback sur ces grands espaces, entrecoupé de zooms sur un espace clos restreint qui est la prison. Donc c'est un livre en forme d'accordéon, vous voyez, c'est-à-dire qu'on passe de l'arrière à l'avant comme un microscope. Alors parfois, certaines notions sont vécues comme des prisons. Par exemple, la famille. Chez Dubois, la famille, c'est une geôle. Paul a grandi entre un père donc danois, pasteur, et une mère qui est propriétaire d'une salle de cinéma et qui n'hésite pas à programmer Gorge Profonde. Le père pasteur, il le vit très mal. Autre espace qui vaut la prison, l'Excelsior, ce fameux énorme immeuble dont Paul est l'intendant, 68 appartements, une piscine, un jardin immense, des tuyaux qui toussent. Et la première année quand il prend le job, Paul perd 9 kilos, il dort une nuit sur deux. « Je vivais constamment dans le ventre de la bête », dit-il, « à réparer ses organes ». Mais fidèlement à cette logique d'accordéon, on passe du caveau au grand ciel, et c'est là justement que Paul rencontre donc la femme de sa vie aux commandes de son avion. Alors elle, c'est le genre de femme qui, sur un ponton, après avoir déposé Paul dans la région des Grands Lacs, lui saute dessus, et en se rhabillant, elle lui dit « Quand je t'ai vu revenir ce matin à l'hydrobase, j'ai pensé immédiatement, c'est avec cet homme-là que je vais finir ma vie. Maintenant, on embarque, referme bien la porte et n'oublie pas la sacoche. » un mélange de glamour et de pragmatisme que les filles de cette émission connaissent bien et pratiquent régulièrement. Mais écoutez l'écriture de Dubois comme elle est belle, parce que Paul, lui, compare cet accouplement sur le ponton, je cite, à un bref éclair illuminant la vie comme une fusée de détresse. Et vous l'entendez, il convoque l'idée de l'envol, l'idée du céleste, qui contraste avec les tombeaux que sont l'Excelsior ou la prison. Bref, en résumé, avec Dubois, aucune chance de tomber sur un lieu commun. Je vous redonne les références. « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » de Jean-Paul Dubois est paru aux éditions de l'Olivier.
Merci Clara Dupont-Mono. Vous avez remarqué, il s'appelle Dubois et l'édition c'est l'Olivier.
C'est génial.
Fou, hein. Vous ne l'avez pas noté, ça? Non, alors,
c'est de la radio.
Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu que vous ne l'ayez pas noté.
Et il a fait du beau boulot.
Pardon Jean-Paul Dubois.
Ah, bah, première radio France quand même avec ça,
on se croirait en fin de semaine, mais nous ne sommes que mercredi, les amis. 17h52 sur France Inter. Clara Dupont-Mono, merci. On poursuit la conversation avec Cécile Reboa. Tiens, dans les entreprises, les ministères, les organisations en général, qui sont les numéros 2? Est-ce qu'ils ont choisi cette position? Est-ce qu'elle est plus confortable que numéro 1? Si oui, est-ce par refus des responsabilités et du pouvoir?
Bien, messieurs, ceci est un bobsleigh. Alors voilà ce qu'on va faire. 100 cas.
Oui, je sais, c'est moi le pilote.
Non, toi je te mets au frein.
Non, c'est moi le pilote.
Non, t'es au frein.
Je suis le pilote.
Non, t'es au frein. Et tu prends ta place. Tu sais, 100 cas, le pilote doit travailler encore plus que ses coéquipiers. Il doit être le premier debout et le dernier à se coucher. Pendant que les copains sirotent leur bière, il est dans sa piole à étudier des schémas de virage. Il doit rester au maximum de sa concentration pendant toute la durée des épreuves. Il doit connaître sur le bout des doigts le moindre centimètre de la piste qu'il va avoir à parcourir. Et c'est lui qui est responsable de la vie des trois types qui ont poussé derrière lui. Alors, t'acceptes ses responsabilités?
Oh, on est bien à l'arrière.
Rasta Rocket. Ah oui, un film de John Turteltaube. C'est pas inventé, c'est vraiment comme ça. Avec la voix française de Daniel Rousseau.
Le beau-frère de Demelon, je crois.
Donc c'est la couverture d'un précédent Technicart sur les numéros 2 qui prennent qui sont peut-être plus malins que les autres parce que comme ça ils sont pas en première ligne. C'est la théorie. Est-ce que vous, Cécile Reboa, vous avez joué beaucoup de second rôle. Là, vous portez un téléfilm en deux parties sur TF1. Est-ce que c'est plus confortable d'être second rôle que premier?
Oh ben non, c'est plus confortable d'être premier rôle.
Pourquoi?
Financièrement,
parce qu'on vous
oui.
Suit. Alors financièrement, c'est mieux déjà. Mais parce qu'on vous suit, parce qu'en fait, vous portez pas grand-chose. Vous avez rien à faire puisqu'on vous suit.
C'est les second rôles alors qui.
Mais je trouve que les
font le job.
Les second rôles déjà sont souvent plus décalés. On décale souvent les second rôles, en tout cas dans les comédies, même dans les drames. Moi, je trouve que c'est très confortable, le premier rôle, parce qu'il y a tout à jouer, parce qu'on n'a pas le temps de se poser de questions, on est là tout le temps.
Mais on a plus de responsabilités ou pas? C'est comme dans les entreprises ou en politique?
Sûrement, mais je ne l'ai pas ressenti comme ça. Moi, ça m'a plu. Oui, je me suis sentie très à l'aise.
Elle est plus à l'aise dans les premiers rôles, en fait.
Ah ouais, je crois, en fait. Je crois que je préfère cet endroit-là. Non, mais ce qui est génial, c'est de... En plus, là... C'est vrai que je crois que je suis dans toutes les scènes du film, ce qui est quand même fou, quoi. Et c'est un luxe absolu de se laisser glisser dans une histoire et de je sais pas, j'ai beaucoup
Et vous
aimé.
Êtes très bien entouré parce que les second rôles, c'est quand même Claire Nadeau, Mehdi Sadoun, Catherine Allégret, Pascal Demolon et puis Jules Houplin. Simon.
Et d'ailleurs, en début d'émission, j'ai dit Mehdi Nebout.
Oui, alors, c'est oui, Sabout. Oui, oui. Ouais. Ouais, bien sûr. On a bien compris qu'on racontait n'importe quoi.
Jean-Luc Bidot. Jean-Luc Bidot numéro 2.
On l'embrasse, il nous écoute à Genève. On a bien compris que vous racontiez n'importe quoi, que vous jouiez pas dans le téléfilm et que c'était pas sur
qui
TF1, mais c'est pas grave.
Je ne sais plus.
Cécile Reboa, on va jouer avec vous si vous voulez bien.
Et on va vous proposer de jouer dans un sketch. Depuis plusieurs semaines, on observe une surenchère des polémiques sur les chaînes Toute Info. C'est à se demander comment ça se passe dans les salles de rédaction. Cécile, Charline et Guillaume, vous serez des journalistes travaillant tantôt pour CNews et tantôt pour LCI.
10h, rédaction de LCI.
Bon, là, ça va plus, là, on a perdu la main.
Ah, c'est vrai, on a peut-être été un peu faible sur la couverture des Kurdes en Syrie.
Mais là, on a perdu la main sur le buzz, là. Ah bon, hier, CNews nous a battus avec les tirs à balles réelles, là, faut qu'on aille plus loin.
Plus loin que tirer à balles réelles sur les gens?
Mais oui, alors, il faut des idées, là, de chroniqueurs pour l'émission du jour.
Oui, alors, moi, j'ai un sociologue qui peut parler des quotas sur l'immigration.
Oh là, il est antisémite?
Non.
Il est homophobe, au moins, non?
Ah bah, non plus, non.
Oh non, bah, laissez tomber. Cécile, des idées?
Bah, oui, des idées. J'ai repéré sur Twitter un homme qui veut rétablir la peine de mort. Ah. Et une femme femme qui explique que l'homosexualité est, le porte, est la porte d'entrée vers la pédophilie.
Ah ouais. Excellent, excellent. Ouais, ouais. On les prend comme experts justice et santé pour l'émission de midi.
Non, attendez, parce que donc, quand même vous réalisez que c'est n'importe quoi.
Non, mais on est là pour le buzz, le buzz, le buzz, le buzz. Allez.
16h, rédaction de CNews.
Ah putain, ça va plus, on a perdu la main là. La rédaction de LCI a eu un casting de folie à midi là.
Oui, enfin, ils ont mis autour de la table des gens qui parlaient de sujets qu'ils connaissaient pas. Hein.
Ça buzz, ça buzz, ça buzz, ça buzz.
Bon, alors quels sont les thèmes qu'on n'a pas encore traités?
Bon, alors les Arabes, ça c'est fait.
Les PD, ça c'est bon.
C'est bon.
Ouais, voilà, moi je propose un débat sur la réforme des retraites. Alors.
Excellent, tu proposes quoi? Un combat de boue avec des retraités, c'est ça?
Ah bah non, je pensais juste à un débat entre un député LREM et puis une personne à la retraite.
Bon, attendez, alors... et si on faisait un débat pour ou contre l'envoi des migrants dans les camps de travail?
Ça c'est bien, parfait.
Donc, et on enchaîne avec un débat, faut-il supprimer le droit de vote des femmes monoposées?
Génial, génial, génial.
Ok, et on termine avec un sujet plus léger, ouais. Comme la Terre est-elle vraiment ronde?
Ouais.
Et si un mec dit oui et qu'il le prouve?
Bam,
ouais, mais on excellent. Peut pas dire tout ça à la télévision.
Mais
enfin.
Si, c'est excellent. Allez, l'émission est écrite, là, c'est bon.
21h, rédaction de LCI.
Ah putain, ça va plus, on a perdu la main, là. On s'est encore fait passer devant par CNews.
Bon, alors moi, j'ai prévu un petit happening.
Un happening, mais on est une chaîne d'information, hein. On n'est pas chez Hanouna
mais
ici.
Mais on est surtout là pour le buzz, le buzz, le buzz, le buzz. Allez.
Donc, attendez.
Ouais.
On fera venir une femme voilée homosexuelle sur le plateau.
Oh, putain, excellent.
Ah bah très bien, on leur donne jamais la parole, c'est l'occasion, alors.
Ah non, mais non, on lui, donnera, on lui donnera pas la parole.
Ah bon. Non. Bah oui, j'aime bien ça.
Bon, ok, sinon, oui. On l'envoie dans un camp de rééducation pour la convertir en bonne chrétienne hétérosexuelle.
Oui, oui, et on la nomme Corinne.
Le buzz, buzz, le buzz, le buzz, buzz.
Ça, ça buzz. Allez, on est bon.
Cécile Rebaud.
À mon avis, on est au-dessous de la réalité.
Je ne sais même pas ce que
donc,
j'ai dit.
Donc, Cécile, elle est prête pour les premiers rôles et les grandes méchantes également.
Et pour les gags.
Merci, Cécile Rebaud. Je rappelle que Itinéraire d'une maman braqueuse est à voir sur TF1 lundi à 21h05. Qu'il s'agit du surendettement des femmes et qu'il y aura donc un débat qui suivra et un documentaire, si j'ai bien compris. Merci, les amis.
Oui, oui,
merci,
bah,
merci à vous.
Merci,
hein.
Merci autour de cette table. Et si vous habitez la région autour de Poitiers, ouais, venez nous voir demain. Facile. Nous serons en direct de Poitiers avec Philippe Catherine.
Super génial, trop top, inouï, trop beau, groovy, trop frais, cheesy, classieux, stylé, ok, funky, trop drôle, glamour, sexy, crazy.
T'es trop VIP.